Le bruit apaisé, les héros du roman s'enfoncèrent dans l'obscurité. Mademoiselle se jeta dans une dévotion d'où le pardon des injures restait exclu. Lauzun cherchait une branche où se raccrocher et n'en trouvait point. Il comprenait trop tard que l'on ne se brouillait pas impunément avec une princesse du sang. Il fit des tentatives de rapprochement que mademoiselle repoussa. Elle l'avait trop aimé pour ne pas le haïr. Leur vie, à tous les deux, paraissait finie quand la même étoile, fantasque, qui avait guidé Lauzun vers tant d'aventures merveilleuses, sinon toujours agréables, le conduisit en Angleterre dans l'automne de 1688. Il y cherchait une cour plus hospitalière que la nôtre. Il y trouva une révolution et la gloire.
« J'admire l'étoile de Monsieur de Lauzun !»
écrivait Madame de Sévigné.
« Qui veut encore rendre son nom éclatant, quand il semble qu'il soit tout à fait enterré ?»
24 décembre 1688. Son nom fut en effet sur toutes les lèvres. Il avait sauvé la reine d'Angleterre et son fils, les avait amenés à Calais au prix de réels dangers et apparaissait soudain comme une façon de héros méconnu et persécuté.
« Il y a longtemps,
dit aussitôt Louis XIV,
que Lauzun n'a vu de mon écriture. Je crois qu'il aura une grande joie de recevoir une lettre de ma main. »
La lettre royale portait à l'ancien favori plus que l'oubli du passé. Elle lui parlait
d'impatience de le revoir.
Mademoiselle y vit un outrage, les ministres et les courtisans une menace pour eux. 27 décembre.
Il a trouvé le chemin de Versailles en passant par Londres. Cela n'est fait que pour lui. La princesse est outrée de penser que le roi en est content et qu'il reviendra à la cour.
Vainement, le roi envoya Seignelay dire à sa cousine, en manière d'excuse et de consolation,
qu'après les services que Monsieur de Lauzun venait de lui rendre, il ne pouvait s'empêcher en aucune façon de le voir.
Mademoiselle s'emporta et dit
« On sait donc là la reconnaissance de ce que j'ai fait pour les enfants du roi. »
Un des amis de Monsieur de Lauzun fut chargé de lui présenter une lettre de sa part.
Elle la jeta dans le feu.
Quand on la vit intraitable, on cessa de s'occuper d'elle et de sa mauvaise humeur. Lauzun rentra triomphalement à la cour de France et Bussy-Rabutin résuma sa carrière dans une lettre à Madame de Sévigné. 2 février 1689.
Nous l'avons vu noyer et le revoici sur l'eau. Ne savez-vous pas un jeu où l'on dit « Je l'ai vu vif, je l'ai vu mort, je l'ai vu vif après sa mort ?» C'est son histoire.
Le second tome du roman offrit encore au badaud la remise solennelle au petit Lauzun par le roi Jacques et dans l'église de Notre-Dame du collier de l'ordre de la Jarretière. À ce beau chapitre en succéda un moins brillant. Lauzun avait eu le commandement de l'armée que la France envoyait en Irlande soutenir la cause de la monarchie légitime. Il manquait des talents nécessaires. Il étonna ses officiers par son incapacité et les fit rougir par
une rage de retourner en France
qui ne fut pas trouvée d'un héros. Louis XIV consentit à le faire duc. 1692, sur
l'instant prière.
Des majestés britanniques, mais son opinion était faite. Il n'employa plus jamais Lauzun, qui n'en prit jamais son parti. À force de rêver à ses peines, mademoiselle comprit cette vérité banale que le bonheur n'est pas fait pour les grands de la terre. Sans l'avoir consolée, cette découverte lui avait apporté un certain apaisement. Elle avait alors pour voisine de campagne, en Normandie, une jeune et charmante femme, appelée la comtesse de Bayard, qui fut au siècle suivant la marraine de Bernardin de Saint-Pierre, et qui lui racontait des histoires. Bernardin les a racontées à son tour en les traduisant dans son langage sentimental, et il s'en trouve sur la grande mademoiselle. Madame de Bayard se plaisait à rappeler comment, dans leur promenade solitaire, elle s'arrêtait à faire compter aux villageoises leurs amours et leurs mariages, comment ses yeux se remplissaient alors de larmes et comment, rentrée dans son château d'œufs, elle disait qu'elle aurait été plus heureuse dans une cabane. Aux pleurs succédaient des enfantillages. L'exécrable vie de cour lui avait donné une vieillesse puérile. Et elle se précipitait à la cour pour ne pas manquer un carrousel ou quelque spectacle du même genre. Le 15 mars 1693, elle fut prise à Paris d'une maladie de vessie qui s'aggrava rapidement. On s'étouffa au Luxembourg pour avoir des nouvelles. La crainte de perdre la grande mademoiselle avait réveillé sa popularité. Monsieur et madame, qui l'aimaient, vinrent la soigner. Lauzun lui fit demander de le recevoir. Son état continuant à empirer et les médecins ne sachant que faire, on lui administra 5 prises d'émétiques, le remède à la mode cet hiver-là. Avec ce résultat qu'elle vit presque aussitôt défiler devant son lit le roi et la famille royale. C'était l'avis officiel de laisser toute espérance. Elle mourut le 5 avril à 66 ans et fut enterrée à Saint-Denis avec beaucoup de pompe. Au milieu de la cérémonie, une urne dans laquelle, par un arrangement bizarre, on avait enfermé les entrailles, se fracassa avec un bruit épouvantable et une puanteur subite et intolérable. Des femmes s'évanouirent. Le reste de l'assistance gagna le grand air à la course. Tout fut parfumé et rétabli. Mais dans cette scène burlesque devint la risée de Paris. Il était écrit que la grande mademoiselle aurait toujours son petit coin de ridicule, même le jour de son enterrement. Lauzun prit le grand deuil et fit le même jour une demande en mariage pour bien marquer qu'il était veuf. Ayant essuyé un refus, il épousa, en 1695, la fille cadette du maréchal de Lorge et devint par là le beau-frère de Saint-Simon. Mademoiselle de Lauzun était une enfant de 14 ans à qui Monsieur de Lauzun avait paru si vieux, avec ses 63 ans, qu'elle avait bien voulu de lui pour être promptement veuve. Elle s'était dit qu'au bout de 2 ans ou 3 ans tout au plus, elle se trouverait libre et indépendante, riche et duchesse par-dessus le marché. Et cette idée l'avait séduite. mais l'on ne pouvait jamais compter sur rien avec Lauzun. Sa femme le garda près de 30 ans, à la faire enrager du matin au soir. Le roi avait dit au maréchal de Lorge, en apprenant le mariage de sa plus jeune fille,
« Vous êtes hardi de mettre Lauzun dans votre famille. Je souhaite que vous ne vous en repentiez pas. »
Le repentir fut prompt et amer et fit rendre justice à mademoiselle. Il était impossible de vivre avec Lauzun. Sa femme n'en vient à bout tant bien que mal que par des miracles de patience et l'on n'a jamais le droit d'exiger un miracle. Le vilain petit calcul du début avait été amplement expié lorsqu'enfin elle devint veuve. Son époux avait été jusqu'à la fin l'une des parures et des curiosités de la cour de France, par ses grandes manières, la singularité de ses habits, la splendeur de sa maison, et un je ne sais quoi d'élégant et aisé. Dans sa conversation et toute sa personne qui ne s'acquérait alors qu'à Versailles. À 90 ans, il dressait encore des chevaux. Un jour, qu'il faisait travailler dans le bois de Boulogne un poulain, à ses débuts, le roi Louis XV vint à passer. Lauzun exécuta devant lui son passade et remplit les spectateurs d'admiration par
son adresse, sa fermeté et sa bonne grâce.
Il avait souvent de ces jolis moments, mais il eut toujours le revers de la médaille, le nain, malfaisant que son esprit malin et ses méchants tours rendaient l'épouvantail de ceux qui l'approchaient. De loin, Lauzun est très amusant sous cet aspect. Il excellait dans la bouffonnerie. Il eut, dans l'extrême vieillesse, une maladie qui faillit l'emporter. Un jour, qu'il était très mal, il aperçut dans une glace deux de ses héritiers, qui venaient sur la pointe du pied en se cachant derrière des rideaux. Regardez s'ils hériteraient bientôt. Lauzun ne fit semblant de rien et se mit à prier à haute voix, en homme qui se croit seul. Il demandait pardon à Dieu de sa vie passée et se lamentait de ne plus avoir le temps de faire pénitence. Il s'écriait qu'il lui restait une seule voie pour faire son salut, qui était d'employer les biens que Dieu lui avait donnés à racheter ses péchés, et qu'il en prenait l'engagement de tout son cœur, qu'il promettait d'éléguer aux hôpitaux tout ce qu'il possédait, sans en distraire la moindre chose. Il faisait ses déclarations avec tant de ferveur, d'un accent si pénétré, que ses héritiers s'enfuirent éperdus conter leur malheur à Madame de Lauzun. Nous quitterons Lauzun sur cette scène, l'un de ses chefs-d'œuvre. Il mourut en 1723, à 90 ans passés. Mademoiselle avait été la dernière à disparaître des grandes figures de la Fronde. Resse, Condé, Turenne, La Rochefoucauld, Madame de Chevreuse, Madame de Longueville étaient morts avant elle. Le seul des anciens rebelles qui ne put pas mourir, l'Hôtel de Ville de Paris, s'était vu retrancher de son histoire par ordonnance royale pour la période correspondant à la Fronde. Les procès-verbaux du Conseil racontaient les sentiments révolutionnaires de la capitale pendant la guerre civile. Le roi fit arracher des registres tout ce qui se rapportait aux affaires publiques, des années 1646-1653. On peut avancer, sans calomnier Louis XIV, qu'à la mort de sa cousine, il éprouva un soulagement à ne plus avoir devant les yeux ce souvenir vivant et souvent indiscret de l'époque exécrée dont il s'efforçait d'abolir la mémoire. Saint-Simon, nouveau venu à la cour quand mademoiselle mourut, avait déjà eu le temps de se convaincre qu'elle était toujours pour le roi l'héroïne impardonnée et impardonnable du combat de la Porte Saint-Antoine.
Je l'ai, oui, reproché une fois à son souper, en plaisantant, mais un peu fortement, d'avoir fait tirer le canon de la Bastille sur ses troupes.
La rancune royale s'étendait à la ville de Paris, berceau éternel de nos révolutions. Ne pouvant supprimer sa capitale, Louis XIV s'en était banni. Le 6 mai 1682, date néfaste pour la monarchie française, la cour s'installa définitivement à Versailles et n'en bougea désormais que pour des séjours à la campagne, Fontainebleau ou Marly, par exemple. Paris fut abandonné, mis en pénitence. Non seulement Louis XIV n'y habita plus, mais il n'y vint que rarement et à son corps défendant. On remarquait qu'il aimait mieux faire un long détour que d'avoir à le traverser. Sa noblesse et ses ministres l'avaient suivi à Versailles. La royauté et la capitale se tournaient le dos. Un autre événement compléta le changement de décor. La reine Marie-Thérèse, étant morte en 1683, le 30 juillet, Louis XIV épousa Madame de Maintenon dans le courant de l'hiver qui suivit. La physionomie de la cour, ce que Saint-Simon aurait appelé son écorce, en devint tout autre. Au moment de clore cette longue étude, c'est donc à un monde nouveau, entièrement différent de celui du début, que nous allons dire adieu, car la transformation ne s'était pas arrêtée à l'écorce. Une cause principale, l'établissement de la monarchie absolue, avait agi violemment sur la France, en bouleversant le pays jusque dans ses profondeurs, comme toutes les nouveautés qui n'ont pas leurs racines dans la tradition nationale. La monarchie absolue n'était pas dans la tradition française. Elle a été chez nous une importation espagnole. Anne d'Autriche, qui ne comprenait pas d'autres régimes, avait élevé son fils dans ses idées, dans ses habitudes d'esprit, et la substitution s'était accomplie sans secousse à la mort de Mazarin. C'était pourtant un vrai coup d'État. Avant Louis XIV, le pouvoir royal, sans être soumis à des limitations précises, se heurtait à des endroits multiples, eux-mêmes mal définis. Il y avait les droits des parlements, ceux des États, ceux des grands, et de combien d'autres, corps ou individus, qui, tous ensemble, mettaient le roi de France dans une situation assez semblable à celle où se trouva Gulliver quand les Lilliputiens l'eurent attaché avec des centaines de fils. Chaque fil n'était rien. L'ensemble paralysait les mouvements. Louis XIV cassa résolument les nombreux fils qui avaient entraîné le pouvoir de ses prédécesseurs. Il se rendit libre en supprimant les vieilles libertés de la France. Avec quel résultat matériel, splendide, d'abord désastreux à la longue, personne ne l'ignore. Mais on a peut-être moins remarqué certaines conséquences morales. de son gouvernement. L'aristocratie française cessa dès la seconde génération d'être une pépinière d'hommes d'action. C'est ce qu'avait cherché Louis XIV en la tenant à la chaîne dans ses palais. Le but était atteint lorsqu'il mourut. On put s'en remettre sur ce point à Saint-Simon, peu suspect d'hostilité envers la noblesse. Quand il arriva au pouvoir, avec le régent, la tête farcie de projets qui devaient rendre les premiers rôles à l'aristocratie et qu'il chercha de grands noms pour les grands emplois, il reconnut qu'il était trop tard. La pépinière était vide. L'embarras, disent ses mémoires, fut l'ignorance, la légèreté, l'inapplication de cette noblesse accoutumée à n'être bonne à rien qu'à se faire tuer, à n'arriver à la guerre que par l'ancienneté et à croupir du reste dans la plus mortelle inutilité qu'il avait livrée à l'oisiveté et au dégoût de toute instruction hors de guerre par l'incapacité d'État de s'en pouvoir servir à rien. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'effacement de l'aristocratie française n'est pas l'œuvre de la Grande Révolution, qui ne fit que prendre acte du fait accompli. C'est l'œuvre personnelle et systématique de Louis XIV. Les hautes classes en général subirent dans la seconde moitié du XVIIe siècle, contrairement à l'opinion commune, un abaissement de valeur morale. Le fait est d'autant plus frappant que notre pays n'a peut-être jamais possédé, à aucune époque, autant de bons éléments pour la tenue et la dignité de la vie. Par une malchance déplorable, les groupes sociaux qui se trouvaient désignés par la solidité de leurs principes pour être les piliers de la moralité publique, avaient encouru l'un après l'autre, pour des raisons diverses, le sérieux déplaisir de la royauté. Chez les catholiques, les disciples des Bérulle et des Vincent de Paul s'étaient compromis, et des Vincent de Paul s'étaient compromis dans l'affaire de la compagnie du Saint-Sacrement. Il n'y a pas de gouvernement digne de ce nom qui puisse accepter de se laisser mener par une société secrète, quelle qu'elle soit. Les jansénistes avaient partagé avec les réformés le mécontentement que toute velléité d'indépendance dans n'importe quel domaine inspirait à Louis XIV. Sa défiance s'entendait à la vie intérieure de chacun. Tout le monde devait sentir et penser comme le roi, sous peine d'être tenu pour rebelle. C'était chez lui une idée arrêtée et qui donna sous son règne un caractère particulier aux persécutions religieuses. Jansénistes et protestants furent poursuivis à titre d'ennemis du roi, bien plus que d'ennemis de Dieu. L'hostilité témoignée par le prince à ses trois foyers principaux de la conscience française et la destruction de deux d'entre eux laissèrent le champ à peu près libre au dévergondage, qui fut la marque de la fin du règne. On le reporte toujours à la régence. Mais l'abcès était formé depuis longtemps, quand la mort de Louis XIV lui permit de percer. Une lettre de 1680 le constatait déjà.
« Nos pères n'étaient pas plus chastes que nous, mais on brode à présent sur les vices, on les raffine. »
Le mal avait grandi impunément sous le manteau d'hypocrisie qui recouvrit la cour de France du temps de Madame de Maintenon. Elle le voyait bien, elle en gémissait inutilement. Les étrangers en étaient frappés. « Tout y est plus concerté !» écrivait l'un d'eux en 1690. « Plus réservé, plus contraint, que ne le porte le génie ordinaire de la nation !» Le malheur fut que Louis XIV, qui avait été élevé et avait vieilli dans une religion toute de pratique, s'en laissa imposer par des libertins déguisés en dévots pour faire leur cour. Le roi, qui avait fait jouer Tartuffe, ne l'avait pas assez médité. Un dernier méfait, et non le moindre, du régime absolu, fut de lancer le pays à la poursuite de la plus néfaste de toutes les chimères politiques, celle de l'unité morale. Louis XIV révoqua l'édit de Nantes au nom de l'unité morale, parce qu'un bon Français devait être de la religion de son roi. Un siècle plus tard, la terreur coupa les têtes au nom de l'unité morale, parce qu'un bon Français devait être vertueux à la façon de Rousseau et de Robespierre. Le lecteur peut continuer de lui-même la série et compter les actes d'oppression commis au XIXe siècle et même au XXe siècle. Tout jeune que celui-ci soit encore, en vue de procurer au pays l'uniformité des esprits, c'est-à-dire la mort intellectuelle. Car en politique, comme en religion, en art, en littérature, en tout, la diversité fait la vie. C'est par cette erreur capitale que le règne de Louis XIV, si glorieux à tant d'égards, a été le précurseur de la Grande Révolution et qu'il a rendu inévitable. Les Jacobins sont un peu les héritiers du grand roi. Au fond, la manie de l'unité morale n'est autre, sous un nom moins malsonnant, que l'horreur de la liberté, sentiment vieux comme le monde, mais qui n'avait pas été dominant, loin de là, dans la première partie du XVIIe siècle. Le mot de liberté revient avec une insistance remarquable, sous la plume de la plupart des gens d'alors, théoriciens, jurisconsultes ou grands seigneurs, toutes les fois qu'ils touchent à la politique dans leurs écrits. L'expression n'avait rien de révolutionnaire dans leur esprit. Ce qu'ils réclamaient était plutôt un retour au passé. Et, surtout, il ne leur venait pas à l'esprit d'associer le mot d'égalité à celui de liberté. C'est le XVIIIe siècle, plus raisonneur et peut-être moins raisonnable, qui en a eu l'idée le premier, sans s'apercevoir que les deux choses sont incompatibles et que l'une des deux était destinée à tuer l'autre. Si la royauté absolue était restée à Paris, elle se serait aperçue que le pays ne la suivait plus. À Versailles, elle ne vit rien. Elle s'était enfermée elle-même dans son tombeau. Le divorce fut consommé entre la cour et la capitale, l'une se contentant d'être figurative et ornementale, l'autre marchant à la conquête de l'opinion, puisque la royauté renonçait à diriger l'esprit public. On se rappelle le rôle d'arbitre universel qu'avait joué la jeune cour. Son jeune roi en tête, du temps où le contact avec Paris était perpétuel, et comme elle était toujours à l'avant-garde pour les idées comme pour les modes, Versailles fut cause que l'on n'espéra plus voir jamais
revenir ces temps-là. On ne se connaissait plus de roi de France à marchand de la rue Saint-Denis. En conséquence, Paris employa le XVIIIe siècle à prendre la direction des esprits. La cour avait décidé du succès des pièces de Molière. Le parterre parisien décida du succès des pièces de Beaumarchais. Si l'on considère maintenant que toute la politique intérieure de Louis XIV fut constamment dominée par le souvenir et l'horreur de la Fronde, on reconnaîtra que cette révolution avortée a entraîné des conséquences aussi graves qu'une révolution victorieuse. C'est pourquoi il était permis de faire tourner l'histoire des idées et des mœurs pendant la Fronde et dans les 40 années qui suivirent, autour de la grande conception de l'existence et par le mal qu'elle a fait à la France ou qu'elle lui a attiré dans la suite des temps. Personne n'a possédé les grandes qualités de son époque à un plus haut degré que cette princesse, et personne ne les avait conservées aussi intactes, sans souci du danger, après qu'elles furent devenues une cause de défaveur. Ni Reiss, ni le grand Condé ne donnaient dans leur vieillesse l'idée de ce qu'ils avaient été sous la Fronde. L'un et l'autre s'étaient trop assagis. La grande mademoiselle fut toujours la grande mademoiselle. Et, si ce fut quelquefois son défaut, ce fut bien souvent son titre de gloire.